Oui, bonjour. Je travaille à la bibliothèque de l'INSA de Lyon et j'ai deux questions qui se rejoignent un petit peu. Enfin, d'après ce que vous avez dit sur votre programme Desirable, comment dès maintenant pouvoir aider les étudiants pour qu'ils puissent apprendre de façon adaptée l'anglais ou bien aussi corriger leurs erreurs typiques en français. Je vous pose cette question très concrète, ne serait-ce que parce que hier j'ai fait une formation à des étudiants et il y avait deux dyslexiques qui m'ont dit qu'il existait des livres ou des documents de référence. Donc si vous connaissez ou si vous savez me guider, m'orienter, ça sera avec plaisir que je prendrai vos conseils. Alors je sais bien que je dérive un petit peu, mais on est quand même dans l'aide à venir pour le français, l'anglais.
Je crains de vous décevoir. Donc je ne vais pas garder la parole très très longtemps, mais si justement on se lance dans cette aventure de travailler sur la mise en place d'outils pour l'anglais, c'est que il y a très peu de choses scientifiquement, enfin dont l'efficacité est scientifiquement avérée pour aider à l'apprentissage de l'anglais, en tout cas quand on est dyslexique. À ma connaissance, il n'y a pas énormément de choses et je me méfierais peut-être un petit peu de toute solution miracle qui vous proposerait rapidement de faire d'immenses progrès en anglais à qui que ce soit d'ailleurs, même en dehors de la dyslexie. Maintenant, peut-être qu'on peut avoir en tête des grands principes. Il y a quelque chose auquel je crois beaucoup, c'est le feedback, le retour sur les erreurs commises. C'est pas parce que quelqu'un commet une erreur en anglais il faut en rester là, et le fait d'aider à faire des ajustements par rapport au modèle sur la base de quelque chose d'autre qu'auditif, en particulier donner un retour visuel sur ce qui a été mal fait et expliquer comment on pourrait faire mieux de manière visuelle me semble être une bonne piste, en particulier pour des dyslexiques, parce que justement du point de vue auditif de haut niveau, c'est-à-dire du point de vue phonologique, ils ont souvent des difficultés. Essayer de leur donner un retour sur leurs erreurs en termes visuels pour les aider à progressivement mieux ajuster, ça me semble quelque chose qui a vraiment des chances de marcher. Alors, comme vous l'avez vu dans ma proposition, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de proposer un tel ajustement progressif sur la production de l'intonation, mais ça pourrait être aussi sur autre chose. Par exemple, je suis pas dyslexique, mais je parle très mal l'anglais, je prononce très mal l'anglais, mais le jour où on m'a montré visuellement ce que c'était qu'une syllabe ta ou pa anglais, en me montrant un spectrogramme et en me disant mais les anglais ils font de l'aspiration après la production de l'explosion et il faut faire ça pour avoir un accent anglais, j'ai réussi à le faire, c'est-à-dire donner les règles en fait. Et ne plus prendre les apprenants pour des gens qui doivent simplement essayer d'imiter, mais essayer de leur expliquer ce qui est différent entre leur langue d'origine et leur cible, ce qu'ils doivent faire, en passant par autre chose que simplement leur faire écouter de manière répétitive. Bon voilà, ça c'est un des principes auxquels je crois un petit peu pour l'anglais. Je suis sûre que les enseignants en anglais ont aussi des tas d'idées, de pistes et de voilà. En voilà une possible. Audrey, je ne sais pas si tu avais quelque chose à... Voilà, la deuxième chose que je voulais dire, c'est pas par rapport à l'anglais, parce que vous parliez de bibliothèque, etc. Il y a un truc qui est avéré, qui est prouvé scientifiquement, c'est que les dyslexiques, malgré leur lourd handicap pour construire un lexique orthographique, peuvent quand même construire un lexique orthographique s'ils sont confrontés à peu près 10 fois plus que les autres à un mot. Présenté visuellement. Donc tout ce qui peut inciter une personne dyslexique à lire quand même va être quelque chose qui va l'aider. Et je connais des étudiants dyslexiques qui m'ont confié adorer lire et continuer à lire et qui progressent. Voilà. Bon. C'est pas grand chose. Hein. Peut-être des personnes qui veulent ajouter des conseils à tout ça.
Non, c'était plutôt une question. Donc j'essaie d'enseigner la phonologie anglaise à des anglicistes depuis 20 ans. Et en fait, il y a une tradition dans l'enseignement de la phonologie anglaise, oui. c'est de passer systématiquement par l'alphabet phonétique.
Oui.
Oui. Qui est normalement un moyen d'objectiver les erreurs et puis de vérifier oui. qu'il n'y a pas de, distorsion entre ce qu'on croit produire et ce qu'on,
voilà.
et ce qu'on produit. Et je dois reconnaître que ce qui semble être une bonne idée au départ ne donne pas de remède miracle. Enfin, oui. ça marche pour les étudiants oui. qui n'ont pas de difficultés, oui, concrètement. Voilà. Mm-hmm. Mais pour les étudiants,
montrer qu'il y a une aspiration, voilà. des trucs comme ça, ben voilà, c'est un retour visuel qui est suffisant.
Voilà. Mais pour les étudiants en difficulté et notamment dyslexiques, ça crée en fait une épaisseur de problèmes supplémentaires.
Oui.
Et donc, je voulais savoir si sur ce point, déjà, vous aviez un éclairage à me donner. Puis après, j'ai deux petites questions de détail.
Oui. Bah, peut-être sur la question de l'alphabet phonétique. Alors, moi, je suis pas enseignante en anglais, enseignante en langue. Donc, voilà. Par contre, j'ai discuté avec un collègue qui enseigne la phonétique et la phonologie en sciences du langage et qui est un peu dans la même situation que vous. C'est-à-dire qu'il doit enseigner à ses étudiants à apprendre un code qui est plus complexe que simplement la trentaine de lettres dont on dispose. Et il s'est aperçu qu'un de ses étudiants était vraiment en échec pour lui incompréhensible dans l'application de cet alphabet phonétique. Bon. Et puis il a discuté avec lui, parce que c'est un enseignant qui est un peu cool, quoi. Bon, voilà, et il a discuté avec lui, et finalement cet étudiant est dyslexique. Et depuis qu'il sait ça, et ben voilà, il essaie de lui proposer des choses un petit peu aménagées au moment de l'examen pour l'utilisation de cet alphabet. Ce qui veut bien dire, et je vous rejoins tout à fait là-dessus, que c'est pas un remède suffisant pour un dyslexique. C'est un retour visuel qui est pas suffisant. Moi, je crois plutôt au retour visuel. Qui sont fondées sur les caractéristiques acoustiques de ce qui doit être produit. Et par exemple, pourquoi pas, j'aimerais bien faire ça prochainement, donner comme retour carrément des éléments plus riches au niveau ou pluriel au niveau du spectrogramme de ce qui a été produit. Pour l'instant, nous, ce qu'on donne, c'est le F0, la courbe du F0 pour l'intonation. Mais je pense que, par exemple, pour arriver à faire produire des consonnes occlusives aspirées en début de mot en anglais, comme on devrait le faire, peut-être montrer le spectrogramme d'un anglophone peut être très éclairant. Moi, je sais que quand j'en ai vu, j'ai eu comme une illumination, si vous voulez. Bon, voilà, déjà. Et peut-être que si on amenait l'apprenant à voir ce qu'il produit, la distance qu'il y a entre ce qu'il produit et ce qu'il devrait produire, en lui donnant l'opportunité d'ajuster et donc de réussir, parce que c'est ça aussi, peut-être le troisième principe que j'aime bien dans les entraînements, c'est qu'il faut qu'ils réussissent. Il faut que l'apprenant réussisse à un moment. Bah, peut-être que ça pourrait marcher. Alors, vous aviez d'autres petites questions.
Les deux petites questions qui vont prolonger ce que vous êtes en train d'expliquer. Justement, par rapport à l'aspiration sur les bilabiales, c'est vrai que ça existe en anglais britannique. Ma question, c'est pourquoi vous avez choisi particulièrement ce point-là quand on sait, par exemple, que les Irlandais le font pas et que c'est pas forcément ce qui pose le plus de problèmes à des francophones, à moins qu'ils visent vraiment un accent locuteur natif, ce qui représente une infime proportion de nos étudiants.
Oui, tout à
fait. Donc ça, c'est la question mais c'est peut-être juste l'exemple que vous avez choisi aujourd'hui.
C'est pas un hasard. En fait, c'est à cause d'un des piliers dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le premier, c'est d'avoir un ancrage théorique. Le deuxième, de s'appuyer sur les recherches qu'on a déjà faites. Et là, je m'appuie sur les recherches faites au labo sur l'implication différente de l'hémisphère gauche et de l'hémisphère droit pour traiter des indices acoustiques longs et brefs. Et en gros, je pense qu'on a des chances de pouvoir faire bouger des choses à ce niveau-là parce qu'on sait... on sait quel est le support neuronal donc c'est pour ça. Le choix, il a été vraiment orienté par ça. Alors après, justement, on enregistre le matériel. Enfin, ça y est, il est enregistré. On a enregistré des anglophones. Donc je suis partie à la chasse à l'étudiant anglophone. Donc, je suis tombée effectivement sur une étudiante qui parlait un anglais gallois. Donc par contre. Mais Californiens, ils le font. Hein, ils le font bien. Donc, bon, voilà. Mais c'est vrai, il y a une variété dans les accents de l'anglais et dans la phonétique de l'anglais qui ne justifie pas forcément qu'on centre tout un entraînement à l'anglais simplement sur une petite chose comme ça. Mais je pense que si déjà on arrivait à montrer que chez des dyslexiques, on peut faire bouger quelque chose sur un petit point comme ça, ce serait pas mal. Et ce serait peut-être un moyen d'interpeller les enseignants en anglais à l'université, voire même dans d'autres, à d'autres niveaux, pour leur dire, bah voilà, au niveau de la recherche, on en est là, on peut vous proposer ça. Et vous, quelles sont vos demandes, quelles sont, parce qu'on ne les connaît pas, nous, ces demandes-là. Voilà.
Donc peut-être ça sera la dernière, je ne veux pas monopoliser la parole, mais ça sera peut-être la même réponse pour l'intonation. Vous avez choisi justement le troisième critère d'intonation, il y a le rythme, l'accent nucléaire. Et la courbe intonative. Donc en fait, c'est la courbe intonative que vous avez choisie qui est considérée comme étant la moins importante par rapport aux deux autres critères. Et donc, c'est peut-être la même réponse que ça.
Oui, c'est un petit peu la même réponse. C'est aussi que visuellement, c'est assez facile à montrer. Et on peut calculer aussi de manière précise avec les outils qui sont mis en place justement par mon collègue Emmanuel Ferragne. On peut évaluer, quantifier précisément la distance entre la courbe produite par l'apprenant et produite par l'anglophone. Donc voilà, c'est vrai qu'en recherche, on fait un petit peu avec ce qu'on a au moment. Je sens bien que ce n'est pas une critique, mais c'est vrai que ça, voilà. Ça explique nos choix.
Oui, bonjour. Donc, bonjour. Je suis responsable du cursus expression et communication dans une école d'ingénieurs. Avec ma collègue, on a mis en place depuis quelques années un dispositif de suivi sur plusieurs années de l'évolution des difficultés. On produit un diagnostic très tôt. Ces difficultés avec le langage ne nous permettent pas d'isoler un groupe qui serait facilement qualifié de 10 quelque chose, dyslexique ou autre. Voilà. Ma question, c'est, on a le sentiment, puis à travers ce que vous nous avez montré, qu'il y a une espèce de continuum, il n'y a pas une frontière claire dans la nature des difficultés rencontrées vis-à-vis du langage, entre les 10 et les non-10. Et de même, ce que vous nous avez montré dans les différents accompagnements possibles, le rythme avec la musique, on voit que même les non-10 en bénéficient aussi. Et donc, ma première question, j'en aurai une deuxième sur l'anglais, parce que nous, on prend en charge tous les élèves qui ont des difficultés, quelle que soit l'étiquette qu'on peut leur coller par ailleurs. Et donc, est-ce qu'il y aurait le besoin d'une identification claire des élèves présentant ce handicap, ou est-ce que c'est juste une histoire d'intensité dans l'accompagnement et dans les modalités de soutien?
Oui. Je pense que je te donnerai la parole parce que tu as sûrement des éléments là-dessus. Il y a quand même un point qu'il faut garder en tête par rapport à la neuropsychologie. Je regarde intensément Raphaël pour parler aussi sous son contrôle. Par définition, la dys quelque chose, que ce soit la dysphasie, la dyscalculie ou la dyslexie ou la dyspraxie, c'est une façon différente de traiter un domaine de l'information. Alors que le retard de lecture, le retard dans la compréhension de la notion de nombre, le retard de production du langage, c'est un simple retard, c'est-à-dire un délai dans une acquisition. On fait en neuropsychologie une distinction essentielle entre les deux, parce que lorsqu'on a affaire à un simple retard, c'est quelque chose qu'on va pouvoir rattraper assez facilement en laissant passer le temps et en avec une prise en charge qui va pouvoir accélérer les choses. Dans le cas d'un trouble 10, c'est là que je pense qu'il y a une frontière catégorielle pour le coup qui est assez importante. On a affaire à vraiment un fonctionnement qualitativement différent. C'est ce sur quoi insistait Sybille Gonzalez dans une intervention précédente. C'est pas une incapacité du coup, c'est une capacité différente à traiter l'information. Alors pour ce qui est, je sais pas si dans le domaine de la production de l'écrit ou de, tu peux peut-être ajouter quelque chose sur cette distinction.
Alors déjà, rien que sur le questionnaire, c'est vrai que on voit bien qu'il y a des difficultés qui sont aussi ressenties par les étudiants contrôle, mais toujours davantage par les dyslexiques. Donc, de toute façon, même sur la production écrite et la production orale, selon ce qu'on va trouver, j'imagine qu'il y a des choses qu'on va trouver aussi chez les étudiants contrôle, mais en plus petite quantité, ce qui sera acceptable par les évaluateurs. Alors que chez les étudiants dyslexiques, ce sera en plus grande proportion. Et là, ça posera problème lors de l'évaluation. Donc, en ce sens, c'est que finalement, ce qu'on va pouvoir trouver et comme spécificité, comme difficulté plus spécifique aux étudiants dyslexiques, va amener à des conseils, à des remédiations ou à des aides qu'on va pouvoir proposer pour arriver à construire un texte cohérent à l'écrit, vu que c'est la difficulté qu'il mentionne, et que finalement tout ce package d'aide, ça va pouvoir être utile également aux étudiants contrôle. Et c'est le cas pour beaucoup de choses. C'est-à-dire que là, les aides, par exemple, par le biais de la musique, ça aide aussi les enfants tout venant. Donc, oui, ça va aider aussi bien les étudiants contrôle, enfin, les populations dyslexiques que les populations contrôle, quoi.
Ah oui. Je ne sais pas si on répond vraiment non, au fond de votre question.
Oui, enfin, mais en gros, il n'y a pas lieu de séparer les modalités d'accompagnement.
Non, les modalités d'accompagnement.
De façon stricte.
On n'a pas. Je pense qu'il n'y a pas lieu de priver, en tout cas, un étudiant en difficulté qui est non 10 des aides qu'on essaie de mettre en place. Bien évidemment. Hein, ceci dit, c'est vrai que prendre en compte la particularité d'un étudiant dyslexique dans sa difficulté particulière. Avec l'anglais, ou d'un dyscalculique avec le calcul, la manipulation des nombres, etc. Prendre en compte sa particularité, ça me semble important. Pour reprendre un exemple concret que j'ai pas eu le temps de présenter ce matin, quand on parle de difficultés phonologiques chez un dyslexique, c'est vraiment quelque chose qui est très différent de l'inattention qu'on peut avoir, nous, à certaines différences phonétiques. En clair, chez un dyslexique atteint d'une dyslexie phonologique, il n'y a pas de réaction cérébrale différenciée à un pa et un ba qui sont un peu ambigus. Voilà, il ne va y avoir de réponse cérébrale, c'est-à-dire d'activation cérébrale différenciée dans l'un et l'autre cas, que si ce sont un pa et un ba très typiques, très bien produits. Normalement, au fur et à mesure que l'on grandit dans les premières années de notre vie dans un contexte linguistique cohérent, on module notre cerveau, enfin notre cerveau se module progressivement grâce à l'expérience pour réagir de manière complètement catégorielle, c'est-à-dire de manière complètement dichotomique au pas et au bas, tout comme au ta et au da, enfin à toute différence phonétique importante dans notre système, y compris pour des stimuli qui sont ambigus. Et la plupart des stimuli qu'on entend dans la vraie vie sont ambigus. Cette difficulté-là, les non-dyslexiques ne l'ont pas. C'est vraiment quelque chose qui est propre aux dyslexiques. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'au niveau des difficultés d'apprentissage de l'anglais, on s'est penché sur cette difficulté à faire la distinction entre certains phonèmes typiques de l'anglais qu'on n'a pas forcément sous cette forme-là en français, parce que justement, ils se caractérisent très souvent par ça, ce flou qu'il y a dans leur système phonologique. Ouais. Voilà. Bon.
D'accord, merci. Je voudrais prolonger. Donc, parce qu'on constate que nos étudiants qui ont des difficultés en anglais sont aussi les mêmes qui ont des difficultés en français. Hein, y a pas de miracle. Alors, dans les écoles d'ingénieurs, comme les écoles de commerce, il y a une obligation pour obtenir le diplôme d'obtenir un certain niveau minimum en anglais.
Elle devait venir cette question-là.
Voilà. Et donc là où on accepte des dérogations aux obligations de diplomation, comme par exemple un étudiant en fauteuil roulant, il n'est pas obligé d'aller faire son stage en exploitation agricole, par exemple. Il n'y a pas de dérogation à ma connaissance à l'obtention d'un certain niveau d'anglais. Or, si vous nous le dites que le handicap de la dyslexie en particulier provoque effectivement des difficultés majeures à la maîtrise de cette langue,
il y aurait lieu, vous me
confirmez ?
Alors, je vais laisser Lucie répondre à cette question. J'ai quand même le temps de lui donner le micro, répondre, ou là-bas. Moi, j'aurais tendance à militer. Mais ça m'est propre pour dire que oui, il y a chez certains dyslexiques en tout cas une telle difficulté au niveau de la construction, de l'élaboration du système phonologique dans leur propre langue, on peut vraiment considérer ça comme un vrai handicap, pour ce que j'en ai vu. Bon voilà, mais c'est juste ma position.
Alors, pour amener un peu de moins, on est en pleine réflexion au ministère sur ces questions-là, notamment la passation du TOEIC pour les élèves ingénieurs. Et notamment le fait que le prestataire qui est souvent conseillé par la CTI refuse un certain nombre d'aménagements parce qu'il refuse, enfin il reconnaît pas certaines situations de handicap. Donc là on se bat pour bien dire que c'est l'établissement en dernier ressort qui reste souverain. Donc si l'étudiant n'arrive pas à répondre au test du TOEIC, l'établissement peut produire une attestation de niveau de langue propre à l'établissement. Nous, par exemple, moi, je viens de l'Université de Lorraine, on est en train d'adapter le CLES hein, qui est un test de niveau de langue pour atteindre le niveau B2, qui tiennent compte des différentes formes d'aménagement qui sont préconisées par notre équipe plurielle et par notre commission handicap, et pour ne pas bloquer les élèves ingénieurs pour qu'ils reçoivent leur titre d'ingénieur. Donc on peut très bien, au niveau de l'établissement, mettre en place une batterie de tests qui permettent de dire, ben voilà, mon étudiant, avec les aménagements qu'on lui a proposés, a atteint un niveau de langue X. Et on joint ça au titre d'ingénieur et on ne peut pas bloquer la délivrance du titre d'ingénieur.
C'est plus à propos de l'anglais, mais à propos de la production d'écrits. Les travaux de Dominique Bucheton, à l'heure actuelle, ont tendance à montrer que la production d'écrits des élèves vont s'améliorer. Les productions vont s'améliorer d'elles-mêmes lorsqu'il y aura réécriture, s'il n'y a aucune correction entre les différentes réécritures. Donc le passage à l'oral peut être un stade, mais le passage juste de la réécriture, sans correction entre les deux, mais juste laisser passer une semaine et refaire écrire le même texte, apporte des modifications très importantes, notamment sur la ponctuation, la maîtrise des temps verbaux et les connecteurs. Donc ça, ce que ça montre pas, que c'est pas forcément une question de type d'écrit, mais de façon dont on peut porter son attention à un moment, et que si l'attention est portée sur le récit qu'il est en train d'inventer, il peut pas à ce moment-là se concentrer sur d'autres éléments. Et si la semaine suivante il a plus à se concentrer sur l'écrit, sur ce qu'il invente, il peut se concentrer sur le reste.
Oui, alors ça, on va pouvoir répondre à ce type de questions d'ici quelques mois, parce qu'on va analyser tous les textes. Et du coup, comme on a 25 étudiants dyslexiques et 25 étudiants contrôle, on va pouvoir donner des résultats quand même plus généralisables. Là, je voulais juste vous montrer un exemple de production. Donc, on va voir ça. Mais il est certain que le niveau d'attention à un moment donné peut jouer sur la production du texte. Mais donc tout ça, on va pouvoir le voir en traitant les données de façon globale. Voilà. On pourra apporter ce type de réponse d'ici quelques mois, en fait. Voilà, mais merci.